21h03 sur Inter, il y a Foule ce soir au studio 621 de la Maison de la Radio. Foule sentimentale, bonsoir Didier Barrault.
Bonsoir Camille Magnard, bonsoir cher ami. Je suis ravi de vous retrouver ce soir cette fenêtre ouverte. On a de la chance depuis qu'on a démarré cette émission, il fait beau, vous êtes ?
Alors moi je suis un squatteur occasionnel du service public et de la Maison de la Radio. Je suis arrivé ici à 9h du matin, je suis toujours là, je pense que j'éteindrai la lumière cette nuit, je m'appelle Jean-Michel Jarre.
Jean-Michel Jarre, qui est ce soir un de nos invités et qui effectivement a passé une grande et belle journée dans cette maison qu'il connaît bien depuis fort fort longtemps. Hein. Et François Morel est là, vous avez bien vu qu'il y avait Jean-Michel Jarre ce soir dans Foule Sentimentale ?
Si, j'avais vu, j'avais remarqué.
Vous vous connaissez ?
Justement, on était en train de se rappeler des souvenirs de plateaux communs. Mais on se souvenait plus de la chaîne. On était ensemble sur un plateau. On avait passé un bon moment, mais on se souvenait plus du numéro de la chaîne.
On se souvient de l'essentiel, du bon moment passé ensemble.
Et surtout du prénom d'Alzheimer, oui. Aloïs.
Jean-Michel Jarre, tournez-vous s'il vous plaît face à cette vue, François Morel aussi. Elle vous évoque quelque chose de particulier, cette vue ?
Bah oui, elle évoque quelque chose de familier, c'est-à-dire quand j'étais pratiquement en culotte courte, je la voyais d'un peu plus bas, parce que j'étais au service de la recherche, juste à côté, il y avait un petit hôtel particulier qui était là, qui était dirigé par Pierre Schaeffer, et j'ai traversé ce pont pendant 3 ans, donc à chaque fois que je vois cette vue, évidemment, ça, c'est une sorte de Madeleine de Proust urbaine, je dirais.
Vous aviez quel âge ?
Je devais avoir 20 ans, entre 19 et 22 ans.
Et qu'est-ce qui vous impressionnait le plus ? Cette maison ronde, majestueuse, ou ce GRM qui, effectivement, était une cellule un peu mystérieuse et en même temps très convoitée ?
Bah, c'était les deux. C'était surtout le talent qu'avait Pierre Schaeffer de défendre un budget indéfendable, celui du service de la recherche. Et la seule chose qu'il a réussi à faire pour que le service de la recherche tienne, c'était de dire que les Shadok était vraiment très rentable. C'est la seule chose rentable qu'a fait le service de la recherche pendant des années. Et les Shadok, c'est pas mal quand même.
Le groupe Paradis qui dit « On fait plus de la chanson en français que de la chanson française ». Vous comprenez ça, Jean-Michel Jarre ?
Tout à fait. D'abord, j'aime beaucoup ce que je viens d'entendre. Et je comprends tout à fait ça. Ça me rappelle ce que je disais à Christophe quand nous écrivions « Les paradis perdus et les mots bleus ensemble » et récemment « Les vestiges du chaos ». C'est-à-dire que il y a effectivement une différence entre chanter en français et chanter de la chanson française. Ce sont deux choses différentes qui ont chacune leur mérite, mais c'est différent.
Alors pour ceux qui ne sauraient pas encore, effectivement, peut-être que Jean-Michel Jarre a concocté de la chanson en français. Exemple déjà lointain, mais quand même en réécoutant, on se dit « c'était pas mal ».
Ah oui, très dark les paroles.
Te faire l'amour avec des fleurs, faut pas rêver. Les apparences ne font pas tout.
Les apparences ne font pas tout. Patrick Juvet, dans sa période glam, hein, c'était ça hein, le projet.
Exactement, c'était ça. C'était le fait que Paul Naref était parti et qu'il y avait, je pense, une place que Patrick Juvet a pris pendant 2-3 ans. Après, il est parti plus vers le disco. Mais effectivement, on a fait 2 albums ensemble que j'ai produits à Los Angeles avec des musiciens incroyables, les musiciens avec Ray Parker Jr., avec les musiciens d'Herbie Hancock. Et ça a donné Où sont les femmes, ça a donné toutes ces chansons, Faut pas rêver, Les bleus au cœur, etc. Et c'est un très très bon, très très bon souvenir.
Alors, il y a ça aussi que peut-être les gens ignorent encore. Et pourtant, quelle chanson ?
Jour après jour, sans rien s'apprendre, sans autre amour qu'amour de dépendance, que faux amour. Dans ce monde de violence, de désordre et d'impatience, les choses vont trop vite, où les gens s'aiment et se quittent. Toi, ma goutte d'eau dans la mer, tout seul dans ce monde, que vas-tu faire ?
Que vas-tu faire ? François Hardy en 1975, oui, si ma mémoire est bonne.
J'adore ce moment. Je n'avais pas entendu cette chanson depuis un moment. J'adore Françoise et je me souviens de ces séances où elle venait. Elle venait d'une version très bizarre. Elle était passionnée par le tricot à ce moment-là, et évidemment déjà par l'astrologie. Et puis, et je me souviens qu'on était tellement en retard que j'ai terminé en fait l'arrangement au mastering, ce qui est très rare. C'est-à-dire, il faut expliquer aux auditeurs que le mastering, c'est quand à l'époque,
c'est la gravure
du disque. Et en fait, la gravure du disque, on grave une seule fois, et pour faire les vinyles de l'époque. Et en fait, j'ai amené un orgue. Dans la gravure, j'avais qu'une seule chance puisque on gravait ce qui allait être le disque dans le studio à l'aube, et je me souviens de ça. Et Françoise qui me disait mais j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle avait, donc c'est très bien que tu rajoutes ça parce qu'elle avait quand même elle a toujours eu une particularité qui était le fait que quand elle aimait pas une chanson, elle allait le dire à la radio en disant n'écoutez pas mon disque parce que vraiment je n'aime pas du tout cette chanson. J'ai eu la chance que celle-là elle aime bien.
Et c'est vrai, elle le dit encore aujourd'hui. Alors pour le plaisir évidemment, vous en avez parlé en préambule de cette citation du groupe Paradis, ceci évidemment.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit.
Christophe, évidemment, c'est un frère d'armes.
Oui, c'est un frère d'armes. Il s'est défini lui-même, d'ailleurs, en disant « Je ne suis pas un chanteur ». Évidemment que c'est un très grand chanteur. Mais quand il le dit, il a raison de le dire d'une certaine manière, parce que c'est un explorateur de sons, avant tout. Et c'est là où on s'est retrouvé aussi bien sur mon album que sur le sien, récemment, avec « Les vestiges du chaos » que j'ai écrit pour lui et qui a donné le titre à son album. Et puis il est venu aussi dans le mien, dans Electronica, avec... Où il est venu chanter en anglais, et je trouvais que c'était intéressant aussi que peut-être des gens en dehors des frontières connaissent le son et le talent exceptionnel de Christophe.
Alors Jean-Michel Jarre est notre invité ce soir dans Foule Sentimentale. On a commencé par la chanson française. On va venir à votre actualité.
Oui, c'est intéressant que le son des aujourd'hui ont toujours été le son des hier aussi depuis maintenant. 3 bonnes décennies.
Bon, alors Jean-Michel, je vous le dis, vous avez des petits yeux, vous êtes toujours aussi beau, mais vous avez des petits yeux parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit en préambule de cette émission, vous êtes là depuis très tôt ce matin dans cette maison. Alors, de quoi s'agit-il, Lilian Allôme ?
France Info.
De quoi ? Ouvrez l'info.
L'habillage, l'indicatif de la chaîne France Info signé Jean-Michel Jarre, c'était un pari. Vous l'avez relevé et ce défi, il séduit tout le monde, même ceux qui au départ disent Jean-Michel Jarre, et c'est incroyable, c'est une réussite. Hein.
Bah oui, c'est d'ailleurs une discussion qui est née dans votre bureau il y a quelque temps, et puis l'idée a fait son chemin, et c'est vrai que c'était un pari. Difficile parce que il fallait d'abord réunir les deux peuplades très différentes, de continents différents, c'est-à-dire la peuplade radio et la peuplade télévision, ouais. Du service public qui plus est. En plus, le fait d'un habillage de chaîne info aujourd'hui, il faut faire très attention de ne pas être anxiogène, de ne pas être clivant. En même temps, de pouvoir qu'une musique puisse à la fois accompagner l'annonce d'une victoire aux Jeux paralympiques et en même temps des choses plus graves comme éventuellement terribles comme celle d'une annonce d'un attentat, sans en rajouter, sans faire pléonasme. Donc, et en même temps, j'avais un cahier des charges qui était tellement épais que je l'ai ouvert et puis après je l'ai refermé parce que de toute façon j'avais pas le temps de déhier. Et donc du coup, j'ai eu un parti pris qui a l'air effectivement de mélanger justement à la fois l'électro et en même temps l'orchestre. Une des raisons pour lesquelles j'étais là aujourd'hui. C'était que j'ai eu la chance d'enregistrer avec l'Orchestre National et 60 cordes. Le thème qu'on entend va bientôt être entendu sur à la fois France Info Radio et France Info Télévision avec les sons incroyables de cet orchestre que j'adore, et donc j'ai eu beaucoup de chance de passer toute la journée avec eux.
Alors justement, vous parliez de réaliser un habillage qui ne soit pas trop anxiogène ou agressif. Lilian continue à nous plonger dans... ce générique et cet habillage. Alors là, c'est la touche Jarre. On vous reconnaît tout de suite là. Hein.
Bah, je sais pas. Je pense que si on s'est adressé à moi, c'est pour que je fasse ce que je sais faire. Donc c'est pour ça que j'ai pris un parti pris. Quand on a très peu de temps, plus j'avais très peu de temps pour le faire parce que il y avait une échéance qui m'était imposée. Donc j'ai abordé cette histoire comme une sorte de film, comme une musique de film. C'est-à-dire se dire que faire pour accompagner la météo, le sport, la politique, la culture. Et donc c'était très amusant à faire. Le défi étant que, comme nous le savons, le média radio et le média télévision sont deux choses complètement différentes. Et il fallait être en même temps face à ces deux tribus qui ne se connaissaient pas encore beaucoup, il faut dire, d'être une sorte de médiateur émotionnel.
Alors, ça, c'est une commande qui est arrivée au moment où vous étiez en train de promotionner le volume 2 d'Electronica. On a envie de vous poser la question, vous vous situez où aujourd'hui artistiquement? Parce qu'il y a eu ces deux volumes qui ont été très importants, qui marquaient votre volonté de transmission, votre volonté aussi de créer du lien social et musical à travers votre projet. Et ça m'a fait penser, c'est pour ça que ma question est un peu longue, à un magnifique moment dans un documentaire qui vous est consacré par la chaîne Arte, où vous retrouvez votre ex-compagne Charlotte Rampling. Et voici ce que vous dites en conclusion. Je trouve ça incroyablement touchant.
Tu te souviens quand on a rencontré Fellini à Cannes?
Fellini in Cannes.
Oui.
Et ces choses formidables qu'il nous a dites. Par exemple, qu'il avait toujours été convaincu qu'il faisait à chaque fois un nouveau grand film. Mais qu'à la fin de sa vie, il avait pris conscience qu'en réalité, il faisait toujours le même film. Je pense que c'est un très bon exemple. Quoi qu'on fasse, on refait toujours la même chose.
Oui, c'est vrai. Et j'ai réalisé qu'à mon âge, c'est sans doute aussi ton cas, étant donné qu'on est sur la même voie. On affine sans cesse. On améliore, on cultive son jardin avec tout ce que l'on a compris de sa propre authenticité. On ne fait pas partie d'une mode, d'une tendance. C'est un voyage propre à chacun, où chacun apporte ce dont il a besoin pour voyager.
C'est incroyable ce qu'elle dit, Charlotte Rampling.
Oui, bah d'abord, c'est toujours une émotion renouvelée d'entendre la voix de la mère de mes enfants. Donc déjà, dans un premier temps, sur le plan personnel, et puis c'est vrai, ce qu'elle dit, elle a toujours l'art de trouver les mots justes, que ce soit en français ou en anglais. C'est difficile de trouver les mots justes dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Et elle a ce talent aussi.
Vous faites toujours le même film?
Oui, je pense que oui, je pense d'ailleurs que c'est pas propre à moi, comme le disait très justement Fellini. Je pense que la musique, dans mon cas, est une addiction, et je pense que c'est pas parce qu'on sait pas faire autre chose, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et je pense qu'à chaque fois, au fond, la création, pour moi, c'est un mélange de frustration et d'espoir. La frustration de ne pas avoir fait assez, et puis l'espoir que la prochaine fois, ça sera un peu mieux. C'est une sorte de mirage, c'est-à-dire le fait de se dire un jour, on va faire le morceau idéal ou le film idéal ou le roman idéal. C'est ce que disait Federico Fellini, et que finalement, tant qu'on n'y arrive pas, et on n'y arrive sans doute jamais, et à chaque fois qu'on pense l'avoir comme un mirage, il vous échappe un petit peu plus, et bien on continue. Donc c'est une addiction, c'est ce qui fait que quelqu'un comme Pierre Soulages, à plus de 90 ans, a sans doute ces 10 dernières années fait les plus belles peintures de sa vie. Donc j'espère pour moi et pour beaucoup d'artistes que nous aimons, que nous aurons tous la santé pour pouvoir le faire.
Et bien, vous l'avez un peu fait dans ce travail sur la transmission, comme je le disais tout à l'heure, avec Electronica qui réunit des jeunes artistes de la scène électronique et des moins jeunes, tous ceux qui ont été éclaireurs, pionniers, défricheurs et qui aujourd'hui continuent à porter le flambeau de la musique électronique dans toutes ses extrémités. Vous l'avez fait, illustration sur France Inter avec Jean-Michel Jarre et celle que nous avons enregistrée à Rock en Seine, toujours aussi flamboyante, toujours aussi dingue, toujours aussi sexy, Peaches. De Peaches à Julia Holter, à Cyndi Lauper, l'arc divin des présences féminines dans Electronica 2 était quand même assez complet, Jean-Michel Jarre. Hein.
Oui, c'est vrai, surtout que, en plus, si on On ajoute aussi Laurie Anderson aussi dans le premier.
Tout à fait, ouais.
J'étais très gâté.
Alors vous avez été finalement du cérébral au plus sexuel hein, avec ses filles, hein, puisque c'est ça aussi, hein, entre Julia Holter et effectivement Peaches et Laurie Anderson, on a des paysages mentaux à chaque fois très différents. Hein.
En fait, pas tant que ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les gens qui m'ont fait l'honneur de venir sur ce projet sont tous des gens qui sont un peu off. Si on réfléchit, que ce soit Massive Attack, que ce soit Sébastien Tellier ou R ou Rhône ou etc. Et évidemment les filles dont vous parliez, elles ont toutes en commun d'abord un son immédiatement reconnaissable et aussi elles sont un peu en dehors du chemin. Elles tracent leur propre chemin et avec en même temps un son instantanément reconnaissable aussi. On écoute 10 minutes, 10 secondes de Peaches ou de Laurie Anderson, on sait que c'est elle et personne d'autre.
Jean-Michel Jarre, je voulais vous présenter ce soir le groupe Synapson qui est avec nous, que vous avez déjà croisé tout à l'heure dans la loge. Paul et Alex qui, la semaine prochaine, seront dans la troisième heure de Full Sentimental en live. Ce sera l'enregistrement mercredi au studio 105 à partir de 19h30. Je sais qu'il y aura du monde et ce sera un vrai plaisir de vous retrouver. Les garçons, vous êtes à côté du Godfather de l'électronique. Qu'est-ce que ça vous fait ?
Surtout que moi je suis à la place la plus proche, donc j'en tremble, pour être honnête. Non, beaucoup d'admiration et beaucoup de respect pour une carrière qu'on aimerait peut-être un peu toucher comme ça. Enfin, on en est encore loin, il y a encore beaucoup de travail, mais vraiment beaucoup de respect, énormément de respect.
Oui, mais enfin, pas tant que ça non plus, parce que moi je suis, et je le dis pas ça parce qu'on est autour de la même table, mais je suis avec beaucoup d'amour et de tendresse que vous faites et je suis ravi qu'on se retrouve et qu'on se retrouve pour avoir l'occasion de le partager.
Ah, adorable, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et c'est vrai, je le pense sincèrement.
Merci beaucoup.
Jean-Michel Jarre, c'est qui pour vous ?
C'est...
c'est plein de choses. Déjà, c'est un artiste en musique électronique qui a su durer. Qui a traversé, je me permets, hein, désolé.
Vas-y.
Mais plusieurs époques,
lâche-toi,
etc. Je pense aussi l'intérêt de la musique électronique et des producteurs et des musiciens de musique électronique aussi, on s'est vraiment pris la tête et à la construction du son, en fait, c'est devenu un instrument aussi de modéliser le son. Et je pense que c'est un des pionniers de ça. Et nous, à notre petite échelle aussi, on essaie. On écoute plein de musiques différentes, on a des discothèques assez éclectiques et c'est essayer de chaque fois essayer de chercher un son un peu nouveau et je pense que c'est ça l'intérêt de la musique électronique, c'est de modéliser aussi l'aspect vraiment esthétique et la façon de mixer un titre, etc. Et c'est vrai que Jean-Michel Jarre, c'est aussi ça et c'est aussi beaucoup de modernité parce que justement je savais qu'on était ensemble ce soir. Du coup, je me suis replongé un peu sur ces travaux et justement sur le dernier disque, j'étais halluciné de voir la modernité parce qu'il y avait, j'ai vu des featuring avec Boys Noize et tout, etc. Donc je me suis dit, il est toujours dans le coup, quoi.
Merci. Les Synapsons, Jean-Michel Jarre aussi, c'est l'architecte des grands spectacles électroniques. Alors à l'époque, il avait cette particularité de faire un spectacle unique, gigantesque pour une seule soirée.
Moi, ce que j'aime beaucoup dans la musique en général, c'est quand il y a ce paradoxe qui est presque une sorte d'oxymore musical, ouais, entre le côté joyeux et mélancolique. C'est le côté happiness is a sad song, comme ça. Quoi.
Jean-Michel, je vous libère. On se retrouvera pour une émission spéciale avec vous juste avant Bercy. Ça se prépare bien. Le 12 décembre. Hein.
Oui, ça se prépare bien. Bah, avant, je vais avoir quelques dates. Ouais. Donc, j'aurai moins d'excuses pour dire que j'étais pas prêt, puisque je vais en faire 40 à peu près avant Bercy. Donc, j'espère le temps de me roder et. Je serai ravi de vous y retrouver. Et puis, on se retrouve ici au micro avant Bercy.
Et juste quelques infos sur ce spectacle.
Non. Très rapidement. Si, je peux en parler très rapidement. Enfin, c'est toujours difficile d'expliquer un truc qu'on va faire sur scène quand on n'est pas François Morel et quand on ne va pas jouer. Mais en fait, non. J'ai commencé, comme je pense que certains le savent, à mettre beaucoup d'éléments visuels dans mes concerts à un moment où ça ne se faisait pas beaucoup. Et aujourd'hui, quand je vais souvent au concert, je vois des choses qui me rappellent ce que je faisais il y a quelques années. Donc j'avais envie de faire un peu autre chose. Et en fait, je me suis mis sur une table, j'ai commencé à griffonner une scénographie que j'avais en tête. Puis je savais pas du tout si ça allait marcher. Puis on a fait les premières répétitions. Et effectivement, c'est un mélange entre le théâtre sur le plan des décors et de techniques plus numériques, et ça fonctionne très bien. Moi, j'ai toujours été intéressé dans la musique par le fait de faire des architectures sonores, de créer des, vous savez ça, de créer des perspectives, des lignes de fuite, etc. Et là, j'avais envie de faire ça sur scène, et je crois que ça fonctionne pas trop mal. Je vais me taire parce qu'il me demande de me taire.
Mais oui, parce que vous avez Camille Magnard qui est arrivée.
Voilà, et donc c'est toujours comme ça. On attend des heures.
Et que c'est l'heure, radio, c'est l'heure de la pub sur France Inter. Je suis désolé.